De la lumière par Lia Berger. Lorsque la porte s'ouvrit à son coup de sonnette, Madame de Condal se vit accueillir par le sourire d'entente qu'ont les anciens et fidèles domestiques lorsqu'ils reconnaissent dans le visiteur un familier de la maison aimé de leur maître. Toutefois, une ombre de regret s'étendit presque aussitôt sur le visage de la camériste. « Monsieur et Madame vont bien regretter. Ils ont dû s'absenter de bonne heure. Mais Mademoiselle est là, si Madame veut bien entrer quand même. » Tandis que Madame de Condal, acquiesçant, pénétrait dans le salon, la domestique ajouta, confidentiellement, « La visite fera du bien à Mademoiselle Simone, qui est dans les grisailles depuis quelque temps. » Madame de Condal sourit. Les bonnes gens de ces expressions imagées, compréhensibles à tous, et que, pourtant, le dictionnaire de l'Académie jamais n'enregistrera. En attendant Simone, qui tardait à paraître, Madame de Condal contempla le portrait de la jeune fille dont l'effigie, signé d'un nom de maître, occupait le panneau principal du salon, de même que sa remuante personne tenait la première place au foyer familial. 15 ans vêtue de rose, car l'œuvre datait de 3 ans déjà, un minois tout fier de sa beauté, énimbé de cheveux abondants, déjà coupés courts, un regard dominateur contrastant avec la juvénilité des traits. « Excusez-moi, chère madame, je n'étais pas tout à fait prête. » Le modèle du tableau faisait son entrée, haut perché sur les échasses claires de ses jambes trop minces gainées de soie. Madame de Condal l'embrassa sur le front pour ménager le fard des joues frais posées. « Je suis seule, » gémit Simone. « Mes parents sont allés dans un patelin sur Seine quelconque assister à l'enterrement d'un des employés de la banque. À cette heure, par ce temps, comme si papa ne pouvait se faire représenter par un fondé de pouvoir. » « Ton père a eu raison, au contraire, de payer de sa personne. Une maison comme la vôtre est une grande famille, où la confiance et l'amitié se donnent en échange des services rendus, et où peines et joies doivent être partagées. Oh, moi, ces cérémonies tristes, ça me rend malade. Aller dans un cimetière me donne une crise de nerfs, j'ai trop de sensibilité. » « Ou d'égoïsme, » pensa in petto Madame de Condal. « D'ailleurs, tout mérite et m'attriste en ce moment, » poursuivit la jeune fille. « Croyez-vous que mes parents ne veulent pas aller dans le midi cet hiver? Et moi j'ai besoin de chaleur, de ciel bleu, de fleurs, de joie, de la lumière, comme disait Goethe, mourant. Ce ciel de novembre, ces pavés suintants, ce froid me paralyse, je vais dépérir, sûrement. » Madame de Condal jeta un regard sur l'appartement luxueux, bien chauffé, éclairé par de larges baies à travers lesquelles s'estompait la précieuse oasis parisienne du parc Monceau. « Tu es bien difficile, » opina-t-elle gravement. « Tant d'autres seraient heureuses d'avoir ton sort. » Se disant, elle se leva. Simone se récria. « Oh, ne partez pas déjà. Je m'ennuie tant toute seule. Emmenez-moi avec vous, si ce n'est pas indiscret. Ma pauvre petite, si tu savais où je suis attendue, c'est pour le coup que tu prendras le spleen ou une attaque de nerfs. Une conférence, alors? Un sermon? Bien mieux, ou plutôt bien pire. Je me rends à l'hôpital de la Salpêtrière. Chez les folles? Il n'y a pas seulement des folles à la Salpêtrière, mais des femmes pauvres, malades, paralysées, tristes épaves de la foule des travailleuses, des solitaires, pour qui le combat de la vie a été trop rude. Tout en faisant la moue, Simone redemanda. « Emmenez-moi. » « Eh bien, soit, viens, » accorda Madame de Condal, après un instant de réflexion. Une demi-heure plus tard, un taxi déposait les deux femmes devant la grille du boulevard de l'hôpital. Quand elles eurent franchi le seuil et les portillons d'entrée, la masse rébarbative des vieux bâtiments dominés par le dôme lourd de la chapelle pesèrent sur leurs pensées de tout le mystère douloureux qu'elles semblaient recéler. Tout au bout de l'allée qui borde le méclos des anciens jardins, la salle dite de l'infirmerie leur parut presque gaie, avec ses murs repeints, et sa triple rangée de lits blancs autour desquels se penchaient les visiteurs, parents, amis, portant des fleurs et de menus paquets. Simone regardait avec un mélange de curiosité et d'appréhension les visages des malades, les uns jeunes, mais pâlis, amaigris par la souffrance, les autres flétris par l'âge, les travaux, les soucis sous leurs bandeaux gris ou leurs broussailles blanches. Madame de Condal s'avança vers l'une des couchettes où une femme âgée, au teint couperosé, aux formes lourdes, était assise, les mains enfouies sous le drap, le visage tendu en avant, les prunelles fixes. La visiteuse se nomma car la femme était aveugle. Elle ne lui serra pas la main, car ses deux bras étaient paralysés, et le moindre attouchement lui causait une vive souffrance. Lorsqu'elle sut que sa visiteuse habituelle lui amenait une jeune amie, l'infirme, en souriant, exprima ce regret. « Quel dommage, mademoiselle, que je ne puisse connaître votre visage. Il doit être charmant, car vous êtes certainement très bonne pour venir voir ainsi les pauvres malades. Depuis 5 ans, je suis privée de la joie de voir clair. » « Il y a 5 ans que vous êtes ici ?» s'exclama Simone, effarée. « Mais oui, et certaines dans cette salle s'y trouvent depuis plus longtemps. On est des pensionnaires à long bail, vous le voyez, et sans payer encore. » Elle rit et s'en excusa. « Je ne me moque pas, croyez-le, mais je suis d'un naturel gai. Plaisanter fait du bien parfois. C'est notre façon d'aérer la salle, d'éclairer notre misère. » Gai, en cet état, Simone était bien près de supposer que cette femme représentait l'une des folles inoffensives dont la triste maison recèle tant d'échantillons. Comme si elle devinait sa pensée, la femme poursuivit. « La jeune demoiselle doit me trouver bien follette. Mais au fond, ma gaieté est un acte de pitié du bon Dieu, qui donne à chacune le remède nécessaire pour supporter sa croix et pour aider à se survivre. » En quittant l'infirmerie, Simone respira fortement et leva les yeux vers le ciel comme à la sortie d'un tunnel. Elle resta songeuse. Sa compagne, qui l'observait à la dérobée, l'amena vers d'autres salles. Des chances physiques, des tresses morales y voisinaient, mais partout, sur les traits ravagés, passait un sourire ému, si heureux à l'approche des arrivantes. On sentait que la pensée compatissante était plus appréciée encore que les petites gâteries offertes, et partout aussi le même courage dédaigneux des plaintes. Pour finir sa tournée, Madame de Condal introduisit Simone dans l'un des anciens corps de logis situés entre deux cours sombres. Dès le seuil, la jeune fille ne put réprimer une moue significative. Cette salle irrégulière, au plafond bas, traversée de poutres, était presque obscure et évoquait une grange. Les fenêtres ouvertes d'un côté, juste au-dessus des lits, laissant pénétrer le brouillard, donnaient sur de hauts murs noirs, lépreux, faits pour donner le spleen au mieux équilibré. On pouvait à peine distinguer les numéros des lits et les traits des patientes. Presque toutes somnolaient, faute de voir clair pour s'occuper. L'une d'elles, cependant, entourée de brochures et de livres épars sur sa couverture, s'abîmait les yeux à parcourir des pages que tournaient malhabilement ses mains réduites à l'état de moignon par le rhumatisme déformant. Ce fut vers celle-ci que se dirigea Madame de Condal. « Oh, madame, que je suis heureuse !» s'écria aussitôt la paralytique, dont le visage anémique, balayé de mèches prématurément blanchies, s'éclaira. « Voyez comme on nous gâte. Un monsieur écrivain, très bon, a pensé nous envoyer un lot de revues et de romans. Toute la salle en profite. C'est si doux. On oublie son mal, que l'inaction avive trop souvent. On s'évade un peu d'ici. On jouit, on rêve. Ce n'est pas ma faute, mais j'ai besoin de cela, moi. Je suis une rêveuse. » Simone demeura frappée par la navrance de ces mots « Je suis une rêveuse » proférée par la malheureuse devant l'horizon d'un lit de malade dont l'une grimaçait la souffrance près d'une voisine innocente qui la singeait avec un rire d'idiote et sous l'oppression du grand mur noir dérobeur du ciel. Jamais de soleil, ni d'arbre, ni de joie, ni de tendresse, s'écria en sortant la jeune fille révoltée. Madame, c'est inhumain cela. Pourquoi ne pas réserver une telle salle aux aveugles ou aux démentes? Pourquoi ne pas octroyer à celles qui voient, qui pensent, qui ont besoin de rêver, des pièces claires avec la vue sur le jardin? On ignore vraiment trop la situation morale de ces misérables. Pourquoi ne pas solliciter en leur faveur des livres, des journaux, des gâteries, et même l'installation d'un haut-parleur de TSF, en ces salles où l'ennui, cette demi-mort, germe comme un champignon? Il y a tant d'âmes charitables et de femmes inoccupées à qui on devrait révéler cet état de choses et suggérer le désir d'y remédier. Madame de Condal écoutait, le visage à mesure épanoui, le plaidoyer de sa jeune amie. Enfin, elle avait trouvé le défaut de la cuirasse d'égoïsme. Le coup porté serait salutaire. « Bravo, petite » fit-elle avec élan. « Je n'attendais pas moins de toi. Eh bien, tu seras l'une de celles qui viendront de temps à autre le jeudi et le dimanche, voir, distraire et gâter ces déshérités, si admirable de résignation. Tu y amèneras des amis, quitte à sacrifier une partie de tennis ou une séance théâtrale. Tu découvres qu'il existe pire calamité que celle de ne pas aller dans le midi. Puisse ce souvenir te consoler, te faire du bien. De la lumière, disais-tu, ne l'apportes-tu pas en ton être, toi qui as la jeunesse, la santé, la fortune? Tu la partageras, tu la diffuseras dans ce domaine de la maladie, de la vieillesse et de la pauvreté. Ainsi ton propre cœur en sera illuminé et réchauffé. C'était De la lumière, par Lia Berger.